Depuis Kinshasa, je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la fréquence de la paix, Radio Okapi, qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est préoccupé par la situation des déplacés internes dans l'est de la RDC. Des milliers d'enfants, des femmes et d'hommes ont abandonné leur foyer dans un contexte d'opération militaire intensifiée contre les groupes armés Mai Mai au sud Kivu. Depuis deux semaines, près de 7000 personnes ont traversé la frontière vers le Burundi voisin et 1200 autres sont arrivées en Tanzanie. Quel regard portez-vous sur cette actualité? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 09 97 06 49 69 pour vos interventions en direct. Le débat c'est également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Polydor Basunga est à la mise en œuvre de ce magazine, Gir Lungembo est à la réalisation et la coordination et Pierrot Elamegi vous le présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
La question des déplacés internes encore dans le débat, dans Parole aux auditeurs, c'est long. L'alarme sonnée par le HCR, me rappelons qu'il y a déjà, au mois de septembre 2017, on avait tiré la sonnette d'alarme parce que la RDC comptait près de 3,6 millions de déplacés internes. Comment faire face à cette situation? Vous êtes nombreux à commenter ces sujets, à vouloir le commenter en direct, mais également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Et pour en parler, nous avons associé à cet échange Monsieur Juvenal Monobo, député national, membre de la commission Défense et Sécurité, ainsi que rapporteur de la commission Forces armées à l'Assemblée nationale. Monsieur Juvenal Monobo, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs des Paroles aux auditeurs.
On peut dire qu'il y a deux ans, si on prend la situation qui est arrivée aussi dernièrement au Kasaï, la RDC a connu ce qu'on peut appeler une explosion de déplacés internes, mais avec tout ce qu'il y a comme corollaire de souffrances et humanitaires. Et comment réagissez-vous face à cette situation?
Oui, au fait, c'est très préoccupant. Hein. Le tableau est sombre. Je crois que vous avez suivi la conférence hebdomadaire de la MONUSCO. L'estimation est faite à un peu plus de 4 millions de personnes maintenant déplacées en République démocratique du Congo. C'est exactement 4,49 millions de personnes déplacées, dont 2,7 millions d'enfants. Donc la situation, elle est préoccupante. Et les provinces les plus touchées, c'est le Nord Kivu. Le Nord Kivu en compte plus d'un million, 1,1 million, selon l'estimation au niveau des organismes humanitaires. Et au Nord Kivu, la grande concentration, c'est dans les territoires de Lubero, de Masisi et de Rutshuru. On dénombre d'autres également dans les Tanganyika, dans le Sud Kivu, en Ituri aussi, hein, avec la recrudescence des affrontements à caractère interethnique. Là, on note autour de 20 000 déplacés internes selon les statistiques de OCHA. Donc c'est une situation préoccupante, c'est un tableau sombre et moi je me dis que le Parlement, des retours de vacances dans les semaines qui viennent, à partir du 15, devrait se saisir de ces dossiers, en tout cas le prendre à bras le corps et non seulement attendre que ce soit les humanitaires, c'est-à-dire OCHA, les ACR, l'OIM, qui s'en occupe. Il faut d'abord que les autorités congolaises s'en occupent. Et
mais alors,
du Parlement, c'est de réveiller, le gouvernement si le gouvernement semble dormir sur cette question.
Alors, Juvenal Monobo, on sait que de plus en plus, la RDC est dans une phase où on considère que le pays a été pacifié, mais quand on regarde cette explosion de déplacés internes, on peut dire que dans les faits, le pays ne connaît pas une guerre, si on peut dire ainsi dans les faits, mais en réalité, la situation, vous l'avez dit, elle est alarmante. Quand on n'a pas beaucoup, on n'a pas une explosion des conflits armés d'une manière manière généralisée comme c'était, mais on regarde les nombres qui augmentent. Prendre en charge, c'est une affaire. Mais le problème aujourd'hui, est-ce que c'est la prise en charge n'est-elle pas peut-être une mauvaise question qu'on se pose s'il faut agir en amont?
Oui, la solution, c'est de stabiliser les zones. Hein. Il faut stabiliser les zones de retour pour que les déplacés rentrent chez eux. Et il faut pacifier, pour tout dire. Hein. Il faut pacifier, assurer le redéploiement de l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire national. Vous avez bien fait de poser la question, parce que ça contraste un peu avec les déclarations des officiels congolais. Lorsque vous suivez les ministres des Affaires étrangères ou les porte-parole du gouvernement, prenons le cas du ministre des Affaires extérieures. Il y a deux jours aux Nations Unies, lors d'une réunion sur le processus électoral, il a dit sur le plan sécuritaire qu'on a maîtrisé la situation à 95%, à 95%, et que le reste, ça serait peut-être des poches d'insécurité. Mais ça contraste, parce que ça, c'est un indicateur. Hein, l'indicateur du nombre de déplacés internes, c'est un indicateur qui ne trompe pas, que la situation reste fragile. La solution, ce n'est pas, il ne faut pas que ça se limite à l'assistance humanitaire, c'est-à-dire donner des vivres, des non-vivres, des abris provisoires. Et là, on serait dans la pure urgence, c'est ce qu'on dit emergency. Je crois qu'il faut stabiliser les zones de retour. Il faut, là où se pose, par exemple, des questions de cohabitation pacifique comme en Ituri, poser des gestes concrets qui vont dans le sens de colmater les brèches au sein de la communauté. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut la stabilisation ou la stabilité dans les milieux, dans les zones de retour. Et non maintenir les gens longtemps dans des camps ou dans des familles d'accueil.
On va écouter Gaston qui est ici à Kinshasa. Gaston, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute, Gaston.
Bon, disons que on devrait plus se focaliser dans l'aspect répression des droits internationaux humanitaires, mais aussi droits de la guerre. Parce que vous savez qu'il y a les règles qui régissent les hostilités. Mais nous constatons que nos militaires sur le terrain n'ont pas tendance à les appliquer, que ce soit ceux qui sont dans les groupes armés ou dans les forces des États, n'appliquent pas. C'est pour cela, ne les appliquent pas. C'est pour cela, sachant cela, parce que normalement la population civile n'est pas concernée par les conflits. Mais pourquoi à chaque fois nous vivons à des déplacements que ce soit sur le plan interne ou sur le plan externe, parce que la population est consciente que si on tombe entre les mains de ces gens-là, ils vont nous massacrer sans cause. Ils vont nous tuer. C'est pour cela, moi, je veux ceci. Je veux que les hauts commissariats puissent aussi avoir un œil dans le sens de réprimer hein, les militaires qui ne respectent pas ces droits-là, qui ne respectent pas les droits internationaux. Au lieu de se fier plus d'aspect assistance auprès de ceux qui sont massacrés à l'encontre de la loi qui régisse la matière sur le plan international. Donc, on devrait plus se focaliser sur le plan répression, veiller à la formation aussi, parce que, vous savez, je sais pas, la MONUSCO est là, c'est pour monde régulièrement pour éduquer nos militaires, des trucs comme ça. Mais on ne sent pas hein, les changements sur le terrain, et ce sont ces mêmes militaires qui... Je pense que c'est une question d'abord d'éduquer les militaires, savoir que non, lorsqu'il y a un conflit, c'est pas tout le monde qui est intéressé à des objets qui sont hors combat. Il y a des personnes qui ne sont pas intéressées, il faut protéger tout cela. Et au-delà de cela, moi je pense aussi qu'en ce qui concerne la partie, vous savez, la population aussi des fois exagère, hein, exagère, parce que il faut pas aussi se déplacer parce qu'on sait qu'on va nous donner à manger des trucs. Là aussi, c'est créer des fainéants. Hein, on crée des fainéants. Mmh.
Alors, quand on regarde ces déplacements, rappelez-vous ce qui est arrivé dernièrement en Ituri avec ces affrontements intercommunautaires. Rappelez-vous la situation du Kasaï. Pensez-vous, Gaston, que les gens se déplacent parce qu'ils ont besoin qu'elle leur donne la nourriture? Quand on est en face des affrontements, pensez-vous aujourd'hui, dommage qu'on a perdu Gaston, on allait peut-être lui relancer cette question quand lui il estimait qu'il fallait pas que la population tombe dans le piège. Merci beaucoup d'avoir appelé des Kinshasa. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, très cher Pierrot, et bonjour à tout le monde.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui, Pierrot, heureusement que vous avez devant vous un invité qui pourra au moins nous éclaircir, parce que ça fait un bon bout de temps, et d'ailleurs c'est depuis 2013 que nous sommes en train de voir ces vagues de déplacés, de réfugiés. Nous, on se pose la question, là où ils sont, nous, l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils sont en train de préciser pour mettre fin à cette situation. C'est pas un secret, nous sommes tous que nous sommes peut-être dans une situation exceptionnelle où les gens sont frustrés parce qu'il n'y a pas, on n'a pas vaincu les élections. Mais comme ils continuent à siéger, qu'est-ce qu'ils préconisent? Quelles sont les pistes de solution et quelles sont les pistes de réflexion pour mettre fin à cette situation? Si nous sommes ici, par exemple, à Kim, où nous voyons qu'il y a eu la guerre au niveau des Kabambas, nous avons les déplacés qui nous atteignent plus de 500 à 600 km, qui sont ici dans la ville, et par pied, ça et là. Il y a les autres qui sont dans la forêt et qui connaissent même des manifestations sévères et aiguës. Maintenant, en tant qu'élu, en tant que député national, un membre d'une commission qui n'est pas aussi moindre, qu'est-ce qu'ils sont en train de préconiser d'envisager pour mettre fin à cette situation? C'était au moins ça ma
question. Merci beaucoup Jean-Claude. C'est une question directe à notre invité parce qu'il est membre de la commission défense et sécurité. Et vous estimez que le problème aujourd'hui il est lié à un conflit, c'est les domaines dans lesquels il travaille. Juvenal Monobo, vous avez suivi cette question directe posée par notre ami Jean-Claude de Kindou.
Merci beaucoup. Je remercie Jean-Claude pour sa question. C'est une question pertinente. Il faut d'abord savoir pourquoi il y a des déplacements. Parce qu'un déplacement a une cause, en fait. Et pour les cas du Congo, les causes majeures des déplacements, c'est quoi? On peut le résumer. Il y a les affrontements entre groupes armés, c'est-à-dire deux groupes armés qui s'affrontent. Affrontements entre FRDC et groupes armés. Il y a des cas aussi où il y a eu des affrontements entre pygmées et bantous, population pygmées et bantous. Il y a des affrontements à caractère intercommunautaire ou interethnique comme à Nitori. Alors, ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, parce qu'il faudrait pas que la population oublie cela. Au niveau du Parlement, au niveau par exemple de la Commission de défense et sécurité, nous essayons de réveiller l'attention du Parlement sur cette question-là. Parce que vous en êtes peut-être témoin, j'interviens assez souvent, même ici, dans cette émission, en soulignant qu'il y a une nécessité, une urgence de réformer l'armée congolaise, d'avoir des forces armées et des forces de police capables de sécuriser l'armée pour sécuriser le territoire, la police pour la protection des personnes et des biens. Mais il n'y a pas assez de volonté politique. C'est ça le problème. Au niveau du Parlement, déjà, il n'y a pas assez de volonté politique parce que les démarches ne sont toujours pas soutenues par tout le monde, quoi. Hein, des démarches qui vont dans le sens d'exiger plus de redevabilité au gouvernement. Et donc, c'est ça le problème. Nous sommes souvent en face d'un mur de pas assez de bonne volonté. Hein, devant un mur de déficit de bonne volonté, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça le problème. Mais il faudrait pas que la population ou les auditeurs considèrent qu'il n'y a rien qui s'est fait. Bon, évidemment, eux, ils n'attendent que des résultats. Ils ne comprennent pas que la question, il y a des sensibilités politiques. Et les gens et les députés, souvent, ils ne sont pas tous ceux qui essaient de se dépasser, quoi. Mm-hmm. Faire un effort de dépassement au-delà des convictions politiques, au-delà des appartenances politiques, voir la situation en face, poser des vraies questions à la population et aux autorités. Parce que, justement, il faut poser des vraies questions. Il faut, par exemple, demander qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait, par exemple, pour l'assistance, par exemple, aux personnes sinistrées au Kasaï, par exemple. Et qu'est-ce que le gouvernement fait pour restaurer son autorité? C'est des vraies questions qu'il faut poser. Dernièrement, ici, il y a une question qui essaie de défrayer la chronique dans les bancs d'Undu, où il y aurait des éleveurs, des vaches en errance. Mais c'est des vraies questions qui doivent être posées. Donc c'est des questions qu'on doit poser normalement au retour des vacances parlementaires. Mais nous posons des questions, mais le problème c'est que ça n'a toujours pas de grands échos parce que il y a des tendances, des considérations d'ordre politicienne au Parlement et au niveau des institutions. Ça, c'est une réalité que beaucoup de gens ne pourraient pas comprendre parce qu'ils n'attendent que des résultats et ils nous mettent tous, justement, dans une même corbeille.
Oui.
Ce n'est que normal, je comprends cette appréhension, cette perception de la population, mais il faut savoir que ce n'est pas si facile que ça parce que tous ne sont pas animés de bonne volonté.
Voilà. Mais on se rappelle, nous avons eu avec vous un débat ici autour de la question du budget consacré à la défense parce que ça aussi, c'est très important. Vous l'avez dit qu'il y a souvent difficile d'accéder aujourd'hui au budget de la défense. C'est là qu'on pourra savoir parce que vous avez évoqué la question de la volonté de savoir combien d'argent on met pour pouvoir s'occuper exactement de cette lutte contre l'insécurité. On voit quand même le FARDC, le travail qui est fait sur terrain. Mais la question des groupes armés, parce qu'aujourd'hui, les affrontements sont plus entre les FARDC et les groupes armés. Ces groupes armés, des fois, qui attaquent des villages, eh bien, se déplacent. Mais cette question des groupes armés, on n'arrive pas vraiment à bout des groupes armés. Est-ce que la question des groupes armés doit être abordée seulement sur les plans militaires ou faudrait-il aujourd'hui une autre approche pour aborder cette question des groupes armés?
Il faut tout un faisceau d'approches. Et évidemment, la première approche, c'est l'approche militaire, hein, parce que c'est des gens qui ont pris les armes et qui s'affrontent contre les FARDC. Eh bien, la solution militaire, c'est une solution, mais il n'y a pas que ça comme solution. Et évidemment, il faut penser à d'autres solutions, des compléments. C'est comme le DDR, hein, le désarmement, démobilisation et réinsertion. Un programme de réinsertion pourrait avoir un effet incitatif pour que ces jeunes abandonnent les armes et rentrent dans la vie civile, travaillent et voir dans quelle mesure ils peuvent arriver à une autonomie financière. Donc le DDR, c'est aussi un programme, il faut voir dans quelle mesure. Ça peut nous aider aussi. Mais pour avoir la paix aussi, il faut penser à l'encadrement de la jeunesse. Hein, il faut promouvoir l'emploi, il faut ouvrir des champs communautaires, il faut encadrer les jeunes, quoi, dans les milliers, dans nos territoires. Donc la solution, et du coup on arrive à ce qu'on appelle la sécurité humaine. Pour avoir la sécurité humaine, il ne suffit pas seulement d'aller chercher des solutions au niveau de l'approche uniquement militaire, sinon on serait en train de réduire son champ de recherche.
Voilà.
Pour réaliser la sécurité humaine, il faut toucher à tout, la question de l'emploi. Elle-même, hein, manque d'emploi, ça peut être cause de l'insécurité. Voilà un peu. Donc il faut diversifier.
On va écouter Sylvain.
Le gouvernement a diversifié des pistes de solutions.
Voilà, on va écouter Sylvain qui est à Bounia. Cette question des déplacés internes, Sylvain, une explosion. Si on vous suit les chiffres donnés par notre invité tout à l'heure, qui sont ressortis de la conférence des presse hebdomadaires des Nations Unies animée par la MONUSCO, il parle de plus de 4 millions de personnes déplacées en interne, alors que sur le plan formel, on estime qu'il y a un fort taux de pacification du territoire national. Comment arriver à résoudre cette question de déplacer interne, Sylvain? Merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs.
Oui, merci beaucoup. En fait, il faut dire d'abord que par rapport à votre présentation, la situation effectivement est nationale. Et la situation de l'Ituri actuellement est extrêmement grave. Je vais répéter toujours, je vais toujours revenir sur la question de l'Ituri. Et si j'ai souhaité aujourd'hui encore participer à l'émission, c'est pour spécialement parler de la question de l'Ituri. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 000 Ituriens qui sont déplacés du côté de l'Ouganda pour la guerre qui se passe en Djibouti. Et donc, pour moi, c'est une occasion une fois de plus de pouvoir interpeller le pouvoir de Kinshasa d'une manière spécifique, mais aussi la présence de l'Ituri à travers son exécutif pour que la gestion de ce conflit, de ce qui se passe en Djibouti, puisse me préoccuper et le plus vite possible essayer d'éradiquer la commission des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qui se commettent en Ituri. Mais alors la question est bien posée, quelle sorte là? Moi, je propose une approche. Et pour moi, je vais parler de l'approche militaire à la dernière minute. Mais la première approche pour moi, c'est d'abord l'approche politique. Monsieur, ce qui se passe dans la RDC, c'est pratiquement une absence de gouvernance de l'État. Pourquoi? Regardez très bien, c'est comme si nous sommes dans un régime militarisé. Non, en fait, le président Kabila Laurent prend le pouvoir par la guerre. À 2001, il part. 2006, le président Joseph Kabila entre au pouvoir avec les élections. 2016, il est réélu président de la République démocratique du Congo. Mais 17 ans durant, on ne sait pas arrêter les atrocités, la guerre en RDC. Et donc, c'est comme si nous sommes en train de nous entourer d'une politique axée sur les métiers du principe de la guerre comme méthode de gouvernance politique. C'est tout ça comme un danger. Et c'est pour cela, moi, je pense qu'il faut revoir la politique de gouvernance politique de notre pays. Ça veut dire, et là, je suis d'accord avec celui qui vient de parler avec moi, il faut essayer un peu de booster une approche de gouvernance entrepreneuriale. Il faut insérer l'entrepreneuriat dans les procédés de gestion de la cité. Comment? Vous avez une population de 10 personnes dans le pays. Alors, il faut donner l'emploi à ces 10 personnes. Pourquoi? Le fait que quelqu'un tombe dans la guerre, le plus souvent, c'est puisque on est resté sans emploi, on n'a rien à faire. Et donc, lorsque vous considérez tous les piliers politiques de notre pays, il me semble que le pilier de la création d'emplois n'existe pas vraiment. Puisque, souvenez-vous de la statistique, la dernière qui a été donnée par Matata Konyo, non année pour ça, les personnes congolaises qui circulent la jeunesse et dans le chômage. Et donc, ce sont des personnes qui sont vouées à des manipulations, ce sont des personnes qui sont toujours attirées par des gens qui peuvent chercher à déstabiliser le pays, et ça ne marche pas. Deuxième approche, c'est l'approche diplomatique, messagère. Je l'ai toujours dit dans cette émission, quelle est la physionomie de la rébellion en RDC? C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Burundi. Ces pays forment ce qu'on appelle le pays de l'Eastern African Community. Ça veut dire, ils se sont regroupés dans des réseaux. Mais qu'est-ce qui ferait que la RDC puisse intégrer ces réseaux? Pour qu'ensemble, étant dans le même réseau de ces pays de l'Afrique de l'Est, qu'ils puissent résoudre ces problèmes. Ça veut dire quoi? Le Rwanda demandera aux FDLR de rentrer au Rwanda. Le Burundi va demander aux FNL de rentrer au Rwanda. Et l'Ouganda demandera aux ADF de retourner à l'Ouganda. Et pour l'été, il est mis la RDC calme. Et nous nous sommes posés des questions. Pourquoi depuis tout ce temps, la RDC ne voit pas ce schéma comme un schéma de solution au problème de sécurité de son territoire national? La troisième approche, pour moi, je pense que c'est une approche militaire. Pourquoi? La Constitution donne un mandat aux forces de la République de défendre l'intégrité du territoire national. Pourquoi nous sommes toujours violentés? Et aujourd'hui, avec les notions des grandes puissances, des forces de grandes puissances, c'est que chaque État se protège par son armée. Même si les gens pensent que c'est la population qui doit faire la force d'un pays, moi je dis non, c'est d'abord l'armée qui doit défendre l'intégrité territoriale du pays.
Merci.
Et vous combinez tout simplement, vous trouvez que c'est zéro en RDC. Voilà
le
plus grand danger, et moi je pense que les HCR et d'autres partenaires qui soutiennent la RDC, donc les réseaux d'interpeller la façon de faire au pays.
Merci beaucoup, Sylvain. Trois approches très importantes. Cette question de l'emploi, l'occupation de jeunes, la diplomatie, la question militaire après. Mais là, vous avez estimé qu'il faut l'implication de ces trois pays voisins de la RDC. Mais il y a aussi cette question de groupes armés qui pullulent, hein, surtout dans les zones d'exploitation minière à l'est du pays. C'est une question très importante. Olivier, vous êtes à Gbadolité. Bonjour Olivier. Olivier, vous êtes avec nous, bonjour. Des petits soucis des lignes avec Olivier qui nous appelait tout à l'heure de Gbadolité. La question de déplacer interne au centre de parole aux auditeurs, près des 4 millions selon les chiffres avancés tout à l'heure par notre invité. Ça, c'est d'une manière globale à travers le pays. Comment arriver à faire face à cette situation? Beaucoup des propositions dans cette émission. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est la ligne pour intervenir en direct.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Pamela Mounazo et Jean-Didier Ogobani vous amènent dans des merveilleux coins recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Amos, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Mégie. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Très bien. Par rapport au sujet australien, en fait, nous continuons à nous poser beaucoup de questions pour ceux qui sont déplacés dans notre pays. Parce que du jour au jour, à part le nombre que vous avez à dénoncer avec l'invité au studio, vous allez comprendre que du jour au jour, il y a d'autres déplacés de guerre qui augmentent et qui sont malheureusement abandonnés à leur triste sort. Mais moi, je pense que tant que notre gouvernement ne sera pas capable d'identifier les causes de ces déplacés-là, il y aura d'autres qui seront là. Et la situation ira toujours de mal en pire. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il fallait d'abord qu'on voie comment mettre fin à la présence ou à la naissance des groupes armés aujourd'hui au pays. Je tiens à vous dire que dans l'unique province du Sud Kivu, il y a plus de 33 groupes armés. Parmi ces 33 groupes armés, il y a deux groupes armés rwandais, il y a trois groupes armés burundais. c'est-à-dire les 28 sont des groupes armés internes. Mais quand on essaie d'analyser la question, on se demande pourquoi ces groupes armés et notre gouvernement pour mettre fin à ça. Depuis que le pouvoir en place est là, là il y a créé beaucoup d'opérations, Moudjawetou, Kifagio, tout ça, pour éradiquer les groupes armés. Mais qu'est-ce que nous avons vécu par la suite? Quel est le résultat par rapport à tout ce qu'on a dit? On comprend qu'apparemment, il y a des politiciens qui seraient derrière les groupes armés pour se faire, se créer de la place, se créer de l'opinion, ou parvenir à exercer quelque chose au sein du gouvernement. Ce qui est très dangereux, et ce qui est grave, c'est que notre gouvernement, au lieu d'agir comme un gouvernement responsable, appuyer ou en assistant valablement notre armée, notre police, nos services de sécurité, pour être un peu clair, on sent que les services de sécurité dans l'Assemblée sont abandonnés à leur triste sort, et voilà pourquoi chacun dans son coin, il crée un groupe armé, dans son fief, dans sa tribu, il crée un groupe armé, et tout ça pousse ces groupes armés à terroriser la population, et demain, on continue à enregistrer des déplacés au pays. Et à part ça, il faut aussi analyser nos frontières. Le Congo aujourd'hui n'est pas sécurisé. Le Congo n'est pas sécurisé. Et chacun dans son pays aujourd'hui, que ce soit avec les neuf pays que nous avons, nos neuf voisins, chacun, à la minute privée, il peut faire son entrée en RDC. Et il ne va pas s'inquiéter. Le dernier, c'est celui d'hier, où on a parlé des affrontements entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Et vous avez suivi ce que le Rwanda a dit. Le Rwanda a dit non. Le Congo est en perte de vitesse au niveau interne aujourd'hui. Le gouvernement congolais est en train de dire du n'importe quoi parce que lui-même n'étant pas organisé au niveau interne, il veut jeter de l'opprobre sur n'importe qui. Moi, je pense que ce qu'il faut pour mettre fin au problème des déplacés, c'est d'abord refonder l'État congolais. Mmh. Avoir un État responsable, un pouvoir responsable au sommet du pays, pouvoir parvenir à répondre à tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, et on mettra ce problème des déplacés.
Merci beaucoup, Amos. Il faut refonder l'État, mais vous avez évoqué cette question de résultats des différentes opérations. C'est pourquoi nous allons demander à notre invité Juvenal Munubo, vous qui êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, mais aussi sous commission forces armées. Amos évoque cette question de la multiplicité des groupes armés, mais aussi les résultats des différentes opérations qui ont été menées depuis pour éradiquer ces groupes armés, Juvenal Munubo.
Oui, au fait, il y a eu beaucoup d'opérations. Hein. Amos a bien fait de le rappeler. Il a parlé de Umojawetu, opération militaire qui était annoncée comme ça brusquement avec le Rwanda. Hein. Souvenez-vous que ça n'a pas plu à tout le monde, même président de l'Assemblée nationale à l'époque, Vital Kamerhe, a dû rendre les tabliers. Et d'autres opérations militaires qui ont suivi par la suite. Ça n'a pas réussi l'opération avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que, vous savez, ça n'était pas des opérations bien planifiées. Mais on se pose toujours la question si l'agenda était le même pour les deux forces qui agissaient ensemble. Pourquoi? Parce que on voyait que ça se réduisait à des opérations où on disperse par contre les FDLR. Et les FDLR, dans leur dispersion, se rabattent sur des populations civiles. Il y a eu des massacres, par exemple, à Walikale, dans les villages de Busurungi. Donc ça n'était pas, sur le plan de coordination, ça n'était pas bien fait. Et puis moi, je n'encourage pas que l'armée étrangère entre ici, parce que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit les autres pays, il y a toute une histoire. Il y a une histoire pas très lointaine où des armées étrangères ont été ici et d'autres se sont même affrontées en pleine ville de Kisangani. Donc ça n'était pas bien pensé. Il y a eu des opérations aussi avec la MONUSCO, hein, si je me rappelle, des opérations conjointes, je crois que c'est le cas de Kimia. Mais là aussi, il faut savoir que le climat de coopération avec la MONUSCO n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Mais les rares deux fois qu'il y a eu bonne collaboration entre FRDC et MONUSCO, il y a eu des bons résultats aussi. C'est comme le front contre la M23. Mais il s'est passé un moment vraiment de froideur où la MONUSCO n'était pas d'accord que les FRDC ou les gouvernements maintiennent dans les FRDC certains officiers accusés des violations des droits de l'homme. Et là, Kinshasa n'a pas apprécié cela et du coup, les relations avec la MONUSCO en ont souffert, au fait.
Bref, il faut voir dans quelle mesure rétablir ces relations. Des opérations conjointes avec Monusco, ça peut être une bonne chose. Ça n'a pas marché aussi, ces opérations, plusieurs opérations. On a oublié aussi un élément important, c'est qu'on n'associait pas assez la société civile. La population, elle doit aussi être associée. Hein. C'est vrai, les acteurs de la société civile, ce n'est pas des militaires, mais au moins les leaders locaux, communautaires, peuvent donner des informations sur des endroits où se cachent des groupes armés. Hein, parce que des groupes qui opèrent comme des guérillas, je ne vois pas comment on peut le vaincre sans un requêt des renseignements. Il faut collaborer avec la population locale, à travers la société civile. Si on établit cette collaboration-là entre FRDC, MONUSCO et population locale ou société civile, je crois on peut arriver à éradiquer les groupes armés. C'est possible. Mais le problème, c'est qu'on lance, par exemple, une opération, comme la dernière opération lancée contre les ADF dernièrement. J'ai appelé les FARDC seuls qui l'ont lancée, sans MONUSCO, hein, sans collaboration avec la population locale. C'est des essais, finalement, qui ne réussissent pas.
Ok. Alors, on va écouter Valérie qui est ici à Kinshasa. Messieurs, merci de nous avoir rejoints à ce niveau du débat. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à toute l'équipe de la Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, merci Pierrot. De toutes les façons, j'ai toujours déploré le fait que cette guerre puisse prendre un peu longtemps. J'ai suivi une émission sur RFI. Il a été démontré que des guérillas comme ça, des guerres de ce genre entre groupes armés, c'est des guerres qui vous mettent longtemps. Parce que ce sont des guerres asymétriques et ça demande une large implication de tout le monde. Mais alors, je me pose des questions. Un, qu'est-ce qui fait que nous avons des militaires bien formés par rapport à ces groupes armés? Nous avons des armements bien outillés là, donc nous sommes bien outillés, et nous avons même la possibilité de nous associer à la MONUSCO, d'acheter même des équipements que les rebelles ne peuvent pas, mais entre nous échouons. Là, il y a une nébuleuse. Deux, qu'est-ce qui fait que la population est derrière nous, mais nous ne parvenons pas toujours à éradiquer ces groupes armés? Pourtant, c'est celui derrière qui se range la population qui a la possibilité de gagner. Nous avons vu l'exemple entre les ex-phases avec les Kadogo. Les Kadogo, c'était pratiquement une milice. Mais pour autant que la population zaïroise à l'époque était derrière elle, nous avons vu comment ils ont fait une promenade de santé pendant 9 mois pour atteindre Kinshasa. Donc là, il y a une nébuleuse. Rentrons maintenant aux causes. Bien. Monsieur Juvenal Munobo, l'honorable Christelle en passant, a donné quelques causes, mais je vais ajouter aussi d'autres. Il y a aussi les problèmes, même d'alimentation, parce que la guerre que nous avons connue au Katangala, imaginez-vous, parfois la population s'est disputée des chenilles. Là, c'était pas aussi correct. Sans oublier aussi les problèmes de conflits coutumiers, comme Kabounasapo et autres. Bon, maintenant, rentrons aux origines. Nous avons, premièrement, un complot international. C'est d'abord guidé par l'économie d'exploitation, c'est-à-dire quoi? Les multinationales qui ne veulent pas venir investir, payer les taxes et tout, trouvent que c'est coûteux et ils vont recruter maintenant des mercenaires pour voler les minerais pour leur compte. C'est ce qui fait que tous ces groupes-là sont en train de faire longtemps parce qu'ils ne peuvent montrer, supporter une armée pendant un jour, mais c'est beaucoup, même si c'est un petit groupe armé, qui leur achète les munitions, qui leur pourvoit en alimentation et c'est quel budget par jour? Ils supportent ça comment? Si ce n'est qu'avec les coltans. Donc, il y a d'abord l'économie d'exploitation. C'est là, nous devons répliquer militairement pour chasser. Là, il n'a même pas négocié. Alors, deuxièmement, il y a aussi les problèmes. Il y a aussi le problème de la population. Lorsque la population se sent abandonnée, il y aura formation de petits groupes comme le MDC, si c'est Corps de Christ, chez les Nandé, ainsi de suite. Tous ces problèmes viennent du fait aussi que les gens se trouvent insécurisés. Troisièmement, il y a aussi les tireurs de ficelles. Parce que c'est depuis toujours que les Nandé et les Hutus vivent ensemble. Mais dès qu'il y a un peu d'ingrédients politiques, vous apprenez qu'ils se sont entretiés. Il en est de même aussi avec le peuple qui venait de Burundi, les Hutus, avec les Bafulero. C'est la même chose. Mais pourquoi il doit y avoir tout le temps l'insécurité? C'est parce que nous-mêmes aussi, nous ne parvenons pas à contenir la situation au niveau interne. Et je peux encore ajouter le mauvais rapport entre l'armée et, disons, entre la RDC et la MONUSCO. C'est à tout bout de champ qu'il y a des petites disputes qui créent des interruptions, tout ça. Et là, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit harmoniser ces rapports. Je suis content que l'honorable Munobo vienne de dire que l'opération lancée récemment contre les ADF n'a pas réussi parce que la MONUSCO et la population civile n'ont pas été associées. Figurez-vous, en 2013, lorsqu'on a défait les M23, j'étais scandalisé d'apprendre que on dit ceci, on donne un délai aux EDF de quitter. Est-ce qu'on doit donner un délai aux EDF? Il fallait aussi les faire sortir au même moment que l'M23. Mmh.
Alors, voilà, vous estimez là, oui. Voilà. Oui, vous estimez là, Valérie, qu'il y a beaucoup de choses. Faudrait-il aujourd'hui une table ronde pour essayer d'extirper le mal au fond? Mais cette question de l'économie d'exploitation, on va poser la question tout à l'heure aux députés, parce qu'on sait que ces groupes armés exploitent les minerais dans ces zones où ils opèrent. Ils ont quand même un marché où ils vont couler ces minéraux. Qui sont ces personnes qui achètent les minéraux? Toutes les questions devraient être posées, mais la question de la manipulation politique, les tireurs de ficelles, vous l'avez dit aussi, faudrait-il aujourd'hui identifier? Si nous recourons à ce que notre ami Amos de Bukavu nous disait tout à l'heure, 33 groupes armés pour la province du Sud-Kivu, c'est assez très intéressant. On pourra dire que chaque village, au moins, compte. C'est parce que chacun se retrouve. Faudrait-il aujourd'hui faire une analyse très très approfondie? Est-ce que cette analyse-là manque, Juvenal Munobo? Une analyse approfondie manque-t-elle aujourd'hui pour arriver à cerner l'origine de ces groupes armés, le financement, l'exploitation et le marché sur lequel ils sont en train de couler leurs minéraux, et ce qui permet aussi à pouvoir continuer à entretenir cette insécurité et ces affrontements à travers ces provinces, Juvenal Munobo?
Merci beaucoup, Pierrot. Au fait, plusieurs études l'ont déjà démontré, quoi. Il y a même des ouvrages. Il y a un ouvrage là, de Christophe Boltanski, qui est un journaliste comme vous, « Les minéraux des sangs », c'est qu'il y a un lien, hein, effectivement, entre l'exploitation minière et la prolifération des groupes armés ou la recrudescence des conflits ou la pérennisation des conflits à l'est du Congo. Il y a un lien, pourquoi? Parce que l'exploitation minière n'est pas contrôlée, tout simplement. Il faut contrôler l'exploitation minière. L'exploitation doit être contrôlée, tout comme la commercialisation des minéraux doit être contrôlée. C'est de là qu'on parle de traçabilité des minéraux. Il faut des mesures de certification et de traçabilité. Il faut qu'on sache X minéraux est produit où exactement, par qui. Ce minéraux a été acheminé comment. Et ce minéraux est vendu à quelle destination et à quel prix. Et qu'est-ce que l'État a gagné? Voilà, il faut vraiment de la traçabilité, de la lumière pour savoir comment ça se passe. Mais nous n'y sommes pas encore. Pourquoi? Parce que plusieurs mines, d'abord, ne sont pas certifiées. Hein? Il y a encore beaucoup de mines pour y accéder. C'est tout un problème parce qu'il faut ajouter à ça aussi les problèmes de l'enclavement du territoire national où même les agents de l'ordre ont du mal à accéder à certaines mines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Je me demande pourquoi on ne lance pas les programmes de réhabilitation des routes. Et donc, tout ça, c'est des problèmes. Tout est lié. Hein? Donc, l'enclavement du territoire, les minéraux, on ne sait pas qui les exploite. C'est peut-être des groupes armés qui sont liés à l'exploitation. Armes, peut-être échange d'armes contre minéraux, tout est possible dans une sorte.
Mais quand vous évoquez cette question, Juvenal Munobo, quand vous évoquez cette question de la certification, est-ce qu'on peut dire que cette initiative de la CIRGL de pouvoir certifier les minéraux de la région, quelque part, on joue à un peu d'hypocrisie? On veut que les minéraux soient certifiés, mais on sait aujourd'hui l'apport de l'Ouganda sur le plan de l'exportation de l'or, même le coltan avec le Rwanda, mais la CIRGL a parlé de la certification, mais il y a des minéraux qui continuent à sortir frauduleusement de la RDC dans les zones de conflit.
Oui, la CIRGL, ça serait la bonne structure pour certifier les minéraux. Pourquoi? Parce que les minéraux, avant que les minéraux n'aillent en Malaisie ou en Asie ou je ne sais pas moi, ailleurs, ça passe par les pays voisins, membres de la CIRGL. Donc il manque la sincérité au sein de la CIRGL. S'il y avait la sincérité au sein de la CIRGL, les certificats CIRGL allez nous aider à savoir s'il y a des minéraux d'origine criminelle qui circulent. Mais est-ce que ce travail s'est fait? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de cache-cache au sein même de la CIRGL où des minéraux, lorsqu'ils traversent les territoires nationaux, deviennent blanchis et trouvent les marchés facilement? C'est ça le problème. Il n'y a pas un frangé au sein de la CIRGL.
Merci.
Raison pour laquelle, même s'il y a ces certificats, ces dispositifs, mais on ne voit pas vraiment un impact. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce degré de sincérité.
Voilà. Alors Félicien, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Plus de 4 millions de déplacés internes. L'HCR tire la sonnette d'alarme. On a évoqué les déplacés internes dernièrement au Kasaï. En Ituri, ça vient de s'ajouter. Vous avez suivi notre ami Sylvain en début de mission. Mais il faut quand même qu'on arrive à régler cette question, non seulement dans la prise en charge, mais aussi à travailler en amont pour trouver des voies et moyens d'arrêter ces déplacements des populations. Qu'est-ce qui doit être fait, Félicien? Bonjour.
Bonjour, GR. Bonjour à tous les auteurs de Radio Capi. Bonjour, chers invités. Moi, je vais vous dire que nous avons eu une réunion au niveau des forces centristes indépendantes de la République où je suis le porte-parole. Et nous avons trouvé que la situation est grave dans notre pays, et la situation est très sérieuse et que nous ne sommes pas en train de voir cela avec un œil éclairé. Et nous avons pensé qu'il est temps pour que les Congolais se mettent autour d'une table, c'est-à-dire faire une table ronde ou une conférence nationale, ou je ne sais pas comment on doit appeler ça, mais il faudra que les Congolais se parlent. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Depuis l'époque coloniale, le pays est resté dans une stabilité et dans une paix durable, sans problème. Et dès que nous demandons l'indépendance, les Belges mécontents, ils nous créent des problèmes, ils nous divisent, c'est des guerres tribales, c'est des désordres qui s'installent, des sécessions, tout ça. Parce qu'ils veulent garder la même mise sur les richesses du Congo. Mais il arrive un moment... Et Mobutu qui arrive avec le concours de la guerre froide, il arrive à mettre de l'ordre, à stabiliser le pays. Et nous sommes restés 32 ans en paix, sans problème. On pouvait se déplacer librement, aller où on veut, même si on n'avait pas à manger. Mais vraiment, nous avions la paix et dans ce pays. Tout le monde nous craignait, tout le monde nous respectait. Nos voisins n'avaient rien à dire. Il arrive l'AFDL, vous connaissez comment l'AFDL est arrivé, c'est les puissances extérieures, c'est les puissances, et plutôt les multinationales qui veulent avoir la main sur les richesses du Congo, qui trouvent des solutions pour que le Congo soit balkanisé, pour qu'on pille les richesses du Congo. Et ils vont utiliser le Rwanda, l'Ouganda pour qu'ils viennent nous attaquer, ils viennent mettre le désordre dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans un désordre indescriptible. Et nous, les Congolais, là, nous sommes en train de nous battre. Il faut les élections, il faut les négociations pour le partage des gâteaux, il faut ceci, cela. La classe politique très, très médiocre ne comprend pas que tout cela, c'est rien par rapport à ce qui nous arrive. Nous n'avons jamais eu cette situation de 4 millions de déplacés, de ceci, cela, de tout cela, des désordres indescriptibles dans le pays. On ne peut pas d'abord trouver la solution. D'où vient ce problème et qui est derrière ces multinationales ou ces puissances extérieures, ces puissances occidentales qui nous attaquent? Qui sont les collabos parmi nous et qui sont en train de les aider à envahir ce pays? Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations?
Alors là, il y a une question de responsabilité. Merci beaucoup, Félicien. Il faut qu'on se pose des questions. Il faut un diagnostic. Quand on se rappelle le travail qui a été abattu à San City, regardez très bien, c'était quand même une volonté pour une fois que les gens se mettent autour de la table, qu'ils examinent. Mais on est sorti de là quand même avec la Constitution. Mais faudrait-il aujourd'hui assez des volontés franches, même au niveau des leaders locaux dans les différents milieux où on peut évoquer ces questions de déplacés internes? Et là, vous insistez beaucoup sur cette question du diagnostic, de l'analyse autour de la table plutôt que la guerre autour du partage de pouvoir. Merci beaucoup, Félicien Ismaël. Vous êtes à Lubumbashi. Bienvenue dans Parole aux auditeurs. Ismaël, bonjour. Voilà, des petits soucis, on va pouvoir rappeler Ismaël qui était avec nous tout à l'heure de Lubumbashi Juvenal Bonobo. Si vous suivez les auditeurs, et puis depuis le début de l'émission, au moins les causes sont déjà assez connues parce que les gens ont évoqué l'exploitation minière, les gens ont évoqué le problème de l'autorité de l'État, les gens ont provoqué des interférences politiques, des manipulations, des ceci, cela, l'implication de pays voisins. Cela veut dire que en gros, on connaît déjà les raisons pour lesquelles les groupes armés pullulent et leurs motifs assez. Mais alors le problème aujourd'hui, c'est autour de réponses qu'il faudrait apporter à cette situation, Juvenal Bonobo.
Exact, vous avez raison. Les raisons sont connues et j'ajoute même qu'il y a déjà eu plusieurs ateliers. Il y a eu plusieurs ateliers, soit des formations, des sensibilisations organisées par les organisations humanitaires. Donc les causes sont connues et il faut peut-être ajouter à tout ça la question foncière aussi, hein, qui n'a pas été évoquée ici, qu'il y a des populations qui estiment n'avoir pas accès facile au sol, il y a peut-être d'autres qui ne savent pas négocier l'accès au sol, et toutes ces questions-là, il y a beaucoup de procès lorsque vous voyez vous allez plutôt dans les tribunaux, vous rencontrerez que beaucoup de dossiers sont à caractère civil, quoi, des dossiers fonciers. Donc il faut aussi ajouter une étude par rapport à la question foncière elle-même. Elle est aussi source de conflits, la question foncière, la manière dont la question foncière est gérée. Donc les causes sont connues, mais est-ce que les solutions, pourquoi les solutions traînent? La raison, c'est qu'il n'y a pas assez de volonté politique. La raison pour laquelle nous continuons à insister sur cet aspect des choses. Il faut qu'il y ait la volonté politique.
Alors, Juvenal Bonobo, quand vous évoquez, s'il vous plaît, Juvenal Bonobo, quand vous évoquez,
pour agir, quoi. Oui. Et le gouvernement doit agir.
Oui. Quand vous évoquez la question de la volonté politique, quand on sait qu'il y a des affrontements, qu'il y a l'exploitation minière et qu'on n'est pas la volonté politique, à qui alors va profiter? Est-ce que l'exploitation minière profite quand même à ceux qui détiennent le pouvoir politique, que ce soit des leaders locaux, des leaders même locaux, mais qui se retrouvent à Kinshasa, on peut le dire ainsi?
Oui. Vous savez, la situation, on peut la déplorer comme on la déplore maintenant là, mais il y en a de celles qui en tirent profit. Et c'est ça le drame. Donc plus les gens se lamentent, nous lamentons qu'il y a des guerres à l'Est, au Kassai, l'insécurité un peu partout en Ituri, mais il faut savoir qu'au même moment que nous lamentons, il y a d'autres personnes qui en tirent profit. En fait, il y a des pêcheurs à nos troubles. Je ne sais pas vous donner une liste de pêcheurs à nos troubles maintenant ici, parce que ça nécessiterait le travail même du juge ou du procureur, parce qu'il faut des enquêtes. Mais il y en a. Il faut savoir qu'il y en a. Il y a ceux-là qui tirent profit de ça. Et il y a des Congolais qui tirent profit de ça. Tout comme il y a des étrangers qui tirent profit de cette situation et qui souhaiteraient que cette situation se pérennise. Raison pour laquelle, s'il y a peu de gens qui peuvent avoir en conscience qu'il faut changer la situation, je crois qu'il faut compter sur ces gens-là, et ces gens-là ne doivent pas se fatiguer à demander les changements. Il faut que la situation change. Le Congo n'a pas vocation à être par terre. Hein. Un auditeur l'a dit comme ça, le pays est presque par terre. Ce n'est pas ça la vocation de ce vaste pays, aux innombrables ressources du sol et du sous-sol. Mm-hmm. Nous devrions jouer le rôle des locomotives en Afrique centrale. Et nous bloquons aussi l'épanouissement même de certains pays de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que le Congo reste un ventre mou qui n'avance pas.
Ok, on va écouter
Zachary. Donc
c'est une
grande responsabilité.
Voilà.
Il y a moyen de développer ces pays, il y a moyen de stabiliser ces pays, mais il n'y a pas de volonté. Mais je crois qu'il ne faut pas rester pessimiste parce qu'un jour, ce pays se relèvera.
On va écouter le dernier auditeur, Zachary, qui est à Zongo. On va revenir à vous pour conclure cet échange. Zachary, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
En tout cas, les chiffres sont alarmants, dans le sens où je ne sais pas quelles mesures prévoit le gouvernement à ce qui arrive aux provinces touchées par ce déplacement. J'ai écouté un auditeur dire que des fois, ce déplacement, la population les fasse parce qu'ils veulent en profiter du soutien qui vient de partir par là. Non! C'est pas quand même bien. Et qu'est-ce que l'armée congolaise prévoit pour tous ces déplacements de la population? Le pays est en crise. Nous voulons chercher la solution pour que le pays se rétablisse. Voilà le aujourd'hui, nous attendons toujours les crises. Est-ce que nous allons aller aux élections avec toutes ces crises-là, mes chers frères? Merci pour vous.
Merci bien, Zachary. La question électorale sera évoquée dans d'autres émissions, mais faudrait-il, c'est votre inquiétude, s'il y a des cas d'insécurité, si l'insécurité est grandissante, ça peut aussi porter préjudice au processus électoral. Mais rappelons qu'il y a plusieurs opérations qui sont en train de se dérouler dans ces provinces, que ce soit contre les groupes armés, que ce soit contre les groupes armés étrangers comme les ADEF. Vous avez suivi dans le cours des différentes éditions de Radio Capi qu'il y a FRDC, on peut récupérer une localité qui était tenue par les ADEF qui étaient utilisés comme base arrière ainsi que le matériel de Matélé. C'est parmi les opérations et les travaux qui s'est fait sur terrain aujourd'hui dans cette question. Mais faudrait-il revenir du côté de la prise en charge? Alors, Juvenal Monobo, parce que nous avons évoqué le travail qui doit être fait en amont pour arriver à résoudre cette question de déplacés internes, en définitive, maintenant, la réaction du gouvernement congolais, c'est là, du pouvoir public, dans la prise en charge de ces déplacés, c'est là où aussi se pose un problème aujourd'hui de notre capacité de mobiliser assez de ressources pour venir en aide à ces déplacés, des fois aussi stabiliser les zones de retour, et ça c'est un problème très sérieux aujourd'hui dans notre capacité de mobiliser assez de ressources pour la prise en charge de ces déplacés.
Tout à fait, parce que la première assistance devait être gouvernementale, hein. Il y a même un ministère en charge des solidarités, je crois, si je me rappelle. Mais vous remarquerez, un jour j'avais posé la question et la réponse qui m'a été donnée, c'est qu'il n'y a pas un stock, il n'y a pas une caisse d'urgence quoi du gouvernement pour voler au secours ou intervenir lorsqu'il y a des événements de ces genres, des catastrophes ou des déplacements de population. Et ça, c'est un problème, qu'un gouvernement manque un fonds de secours ou un fonds auquel il peut recourir pour intervenir. Et donc, il se pose un problème de manière globale, hein, les problèmes de mobilisation de moyens. Vous avez bien fait de rappeler cela. Et plusieurs réformes qui ont été initiées en ont souffert. Que ce soit la réforme du secteur de sécurité, que ce soit la réforme de la fonction publique, que ce soit plusieurs réformes, hein, on peut dresser toute une liste, qui n'ont finalement pas marché. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour les financer. Mais pour mobiliser les moyens, qu'est-ce qu'il faut ? On revient encore une fois à la volonté politique. Parce qu'il faut cette volonté-là pour lutter contre l'évasion fiscale, pour lutter contre les trafics d'influence, pour lutter contre la corruption, les détournements, la fraude. C'est ce qui manque, en fait. Et le gouvernement, les parlements, plutôt, ne fait pas assez, à mon avis. Hein ? Nous avons agi, je le disais tantôt, que sur le plan sécuritaire, notre commission a essayé d'initier certaines actions, mais d'une manière, dans une large mesure, il manque même au sein du Parlement cette volonté politique. Et raison pour laquelle je nous exhorte, au retour des vacances parlementaires, la question comme celle du passé, les parlementaires ne devraient pas, n'est pas l'évoquer. Bon, on doit l'évoquer, cette question des déplacements internes, et surtout nous attaquer aux causes, hein, pour y mettre fin. Et pour y mettre fin, il faut restaurer l'autorité de l'État.
Mais alors, vous, en tant que... Oui, Juvenal Monobo, vous...
travaille main dans la main avec la MONUSCO. Okay.
Mais aussi avec la société civile,
arriver à éradiquer ces groupes armés.
Voilà.
Pour que ça ne gêne pas les processus électoraux, par exemple.
Oui.
Ou pour que ça ne constitue pas un prétexte.
Vous êtes l'autorité budgétaire. Rapidement, vous êtes l'autorité budgétaire, c'est vous le Parlement. Vous évoquez cette question de fonds. Est-ce que dans la prévision, y a-t-il aujourd'hui les fonds prévus pour le plan des contingences pour intervenir rapidement quand vous élaborez les budgets, quand les budgets vous est amené par le gouvernement?
À ma connaissance, non. Je ne peux pas dire des bêtises. À ma connaissance, non, ça n'existe pas. Hein, des plans des contingences, d'ailleurs cette expression... Elle est toute nouvelle, elle est toute étrangère vraiment au gouvernement congolais que je connais.
Merci.
Et pourtant, nous devrions avoir un fonds de contingence, c'est-à-dire un fonds prévu justement pour parer à des situations de ce genre.
Merci.
Mais ça n'existe pas.
Merci beaucoup, Juvenal Monobo. Merci d'avoir accepté de discuter avec les auditeurs autour de cette question. Je rappelle que vous êtes député national, membre de la commission défense et sécurité, rapporteur de la sous-commission forces armées à l'Assemblée nationale. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets autour de déplacés internes et vos pistes de solutions et points de vue ont été les bienvenus dans ce magazine. Polydor Basunga était à la mise en onde, Gilles Lungembo à la réalisation et la coordination. Et Pierrot et la Magie, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission qui va être tout à l'heure sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain, vendredi à 11h pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Au revoir.